Nous regrettons que les États-Unis quittent comme ça le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. On peut comprendre aussi les réactions, par exemple la demande des États-Unis quand il faut réformer en profondeur effectivement pour rendre le Conseil beaucoup plus efficace et éviter que le Conseil aussi soit un nid pour des États qui violent massivement les droits de l'homme dans le monde.
Quand on prend par exemple un pays comme la République démocratique du Congo, on sait que là-bas il y a une violation systématique des droits de l'homme. Comment comprenez-vous justement la présence d'un tel pays au sein d'une organisation aussi importante que le Conseil des droits de l'homme?
C'est ça, la présence du Congo n'honore pas le Conseil. C'est pour cela que je dis que les réformes, par exemple, que suscite un peu le gouvernement américain et qui était en train de travailler dans ce sens, on peut les comprendre. Et ce sont des choses qu'on peut envisager et qui doivent être envisagées au sein du Conseil.
Financièrement, qu'est-ce que ce retrait des États-Unis du Conseil des droits de l'homme de l'ONU signifie pour vous en tant que défenseur des droits et libertés fondamentaux en Afrique?
Cela, je pense que n'aura pas un grand impact sur les questions financières, mais peut-être sur des questions politiques et symboliques. Je pense que c'est tout le système des Nations Unies qui mérite d'être réformé contre des États qui sont reconnus comme des États qui violent massivement les droits de l'homme en les excluant du système, essayer de les désigner pour que les droits de l'homme puissent être une réalité dans le monde en excluant effectivement de ces organes, tous les États qui sont reconnus comme des États qui violent les droits de l'homme, mais également pour empêcher que d'autres États qui violent les droits de l'homme puissent même pas être candidats au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies.